Chapitre 4. Mania. À sa naissance, William Tsung fut désigné comme le bébé le plus cher du monde. Il ne conserva ce titre que pendant 2 ans, après quoi il lui fut volé par sa sœur. Elle le détenait encore et maintenant que les lois familiales avaient été abrogées, elle le conserverait toujours. Leur père, le légendaire Sir Lawrence, était né au temps où la Chine avait remis en vigueur la règle stricte. Une famille, un enfant. Sa génération avait fourni aux psychologues et aux sociologues scientifiques matière première à d'interminables études. N'avoir ni frère ni sœur, et dans bien des cas ni oncle ni tante, c'était un fait unique dans l'histoire humaine. Le mérite en revenait à la faculté d'adaptation de l'espèce ou au système familial chinois. C'était une question qui ne serait probablement jamais réglée. Le fait demeurait que les enfants de cette curieuse époque étaient a priori remarquablement exempts de problèmes affectifs. Mais était-ce si évident? Sir Lawrence avait tout fait spectaculairement pour compenser l'isolement de son enfance. Quand son second enfant naquit en 2022, le permis était devenu obligatoire. On pouvait avoir autant d'enfants que l'on voulait à condition d'acquitter le tarif prévu. Les communistes de la vieille garde n'étaient pas les seuls à trouver ce système tout à fait aberrant, mais ils étaient battus aux voix par leurs collègues pragmatiques de la Nouvelle République démocratique populaire. Le premier et le deuxième étaient gratuits. Le troisième coûtait 1 million de sols. Le quatrième, 2 millions, le cinquième, 4 millions, et ainsi de suite. Le fait qu'il n'existât théoriquement aucun capitaliste dans la République populaire était joyeusement ignoré. Le jeune monsieur Tsung, cela se passait naturellement des années avant que le roi Édouard le fasse grand commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, ne révéla jamais s'il avait un objectif en vue. Il n'était encore qu'un millionnaire ordinaire quand son cinquième enfant naquit. Mais il n'avait alors que 40 ans, et quand il réalisa que l'achat de Hong Kong n'avait pas écorné son capital autant qu'il le craignait, il s'aperçut qu'il avait sous la main une réserve considérable. Ainsi le voulait la légende, mais comme bien d'autres histoires sur Sir Lawrence, il était difficile de démêler le vrai du faux. Il n'y avait certainement rien de fondé dans la rumeur prétendant qu'il avait fait fortune grâce à une édition pirate de la taille d'un carton à chaussures de la bibliothèque du Congrès américaine. Tout le trafic autour du module de mémoire moléculaire était une opération d'outre-terre, rendue possible par le refus des États-Unis de signer le traité lunaire. Si Sir Lawrence n'était pas multitrillionnaire, le consortium d'entreprises qu'il avait créé faisait de lui la principale puissance financière de la Terre, ce qui n'était pas une mince réussite pour le fils d'un humble colporteur de vidéocassettes dans ce que l'on appelait encore les nouveaux territoires. Il ne prêta probablement aucune attention aux 8 millions du sixième enfant, ni même aux 32 du huitième. Les 64 qu'il dut avancer pour le 9e lui valurent une publicité mondiale et après le 10e, les paris engagés sur ses projets d'avenir dépassèrent fort probablement les 256 millions que lui avait coûté l'enfant suivant. Cependant, à ce moment, Lady Jasmine, qui cachait un tempérament de fer derrière son comportement tranquille, estima que la dynastie Tsung était suffisamment établie. Ce fut tout à fait par hasard, si une telle chose existe, que Sir Lawrence en vint à s'intéresser aux affaires spatiales. Il possédait, bien entendu, de nombreuses et importantes compagnies maritimes et aéronautiques, mais elles étaient dirigées par ses 5 fils et leurs associés. La véritable passion de Sir Lawrence allait aux communications, à la presse écrite, les rares journaux qui restaient, aux livres, aux magazines, papier et électronique, et par-dessus tout, au réseau planétaire de télévision. Il acheta alors l'ancien et magnifique Peninsular Hotel, qui, aux yeux d'un petit Chinois pauvre, avait jadis été le symbole même de la richesse et du pouvoir. Il en fit sa résidence et son siège social. Il l'entoura d'un admirable parc, tout simplement en reléguant sous terre les énormes centres commerciaux. La Laser Excavation Corporation, nouvellement fondée, fit fortune dans l'affaire et donna l'exemple à de nombreuses autres grandes villes. Un jour, alors qu'il admirait le panorama incomparable de la cité, de l'autre côté de la rade, il décida qu'une nouvelle amélioration s'imposait. La vue depuis les étages inférieurs du Peninsular était bouchée depuis des dizaines d'années par un grand bâtiment ressemblant à une balle de golf écrasée. Sir Lawrence estima qu'il devait disparaître. Le directeur du planétarium de Hong Kong, considéré comme un des cinq meilleurs du monde, ne partageait pas son avis, et bientôt, Sir Lawrence fut enchanté de découvrir quelqu'un qu'il ne pouvait acheter à aucun prix. Les deux hommes devinrent de grands amis, mais quand le professeur Eisenstein organisa une présentation spéciale pour le 60e anniversaire de Sir Lawrence, il ne se doutait guère qu'il allait contribuer à changer l'histoire du système solaire.